RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi souligne le concept Indo-Pacifique à la séance plénière du sommet de l'ASEAN. La ministre des Affaires étrangères a déclaré que le concept Indo-Pacifique avait été convenu par l'ASEAN. L'Indonésie soutient pleinement la paix en Corée. L'Indonésie et les États-Unis collaborent pour faire une gouvernance démocratique. Le Timor-Leste estime que les possibilités de coopération sont encore ouvertes. Et enfin, IPB coopère avec Taïwan pour renforcer la recherche en mer profonde. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné l'évolution du concept de coopération régionale Indo-Pacifique lors du 33e sommet de l'ASEAN qui s'est tenu mardi soir au centre de congrès et d'exposition Santec à Singapour. Le président Joko Widodo, ou Jokowi, a déclaré dans son discours à la session que le concept Indo-Pacifique est très important pour l'ASEAN pour rester pertinente et maintenir sa centralité. L'ASEAN n'a pas d'autre choix que d'utiliser le sommet de l'Asie de l'Est comme plateforme principale pour discuter de ce concept. Le dirigeant indonésien a déclaré que l'ASEAN, située dans la région Indo-Pacifique, devait pouvoir servir Dax, jouer son rôle et transformer les menaces en coopération accrue. En outre, le président Joko Widodo a également salué la réaction positive des pays de l'ASEAN au concept Indo-Pacifique et en a fait un concept avec l'ASEAN. Les pays de l'ASEAN soutiennent pleinement ce concept. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpe Marsudi, a déclaré que les principes de base du concept Indo-Pacifique avec était accepté par les pays membres de l'ASEAN. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi en marge du 33e sommet de l'ASEAN à Santec Convention Center à Singapour mardi. Selon elle, ce qui avait été consulté jusqu'à présent à l'ASEAN et ses 6 pays partenaires sur la question des principes de base, elle a ajouté que le concept Indo-Pacifique est de renforcer la coopération en reliant les océans Pacifique et Indien. Avec l'Indo-Pacifique, la région de l'océan Pacifique et de l'océan Indien seront une région pacifique, stable et prospère. L'Indo-Pacifique est la région avec la croissance économique la plus dynamique au monde à l'heure actuelle où les pays participants au sommet de l'Asie de l'Est font partie de cette région. Si on les combine, la mesure économique des pays participants à EAS en termes de PIB atteint plus de 65,8 trillions de dollars américains cette année. Au cours des 3 prochaines années, il devrait atteindre 95,6 trillions de dollars américains. Le président indonésien Joko Widodo s'est félicité du développement du processus de paix dans la péninsule coréenne. Au sommet de l'ASEAN et la Corée du Sud, le président Joko Widodo a dit la détermination du président sud-coréen Moon Jae-in à créer la paix qui est très appréciée du monde. Selon le chef de l'État, la détermination du président Moon Jae-in semblait être l'un des nombreux espoirs au milieu de grandes incertitudes dans le monde d'aujourd'hui. Selon l'agence de presse de Radio Nationale, le président a déclaré mercredi à Suntec Convention Center, Singapour, que l'Indonésie soutenait pleinement ce processus de paix. Ce message de soutien indonésien était constamment transmis par le président indonésien, notamment lors de ses entretiens avec le premier ministre de la Corée du Sud et l'envoyé spécial de la Corée du Nord avant l'ouverture des Jeux asiatiques du 18 août. Cet effort n'est pas terminé. Les deux pays ont encore besoin de temps pour véritablement créer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, estime que la société civile représentant les citoyens peut contribuer au processus de formulation des politiques, des services et de contrôle gouvernemental. Le gouvernement des États-Unis, à travers l'USAID, apprécie car il peut contribuer au premier forum de la société civile indonésienne sur le thème « Renforcer les capacités pour assurer la durabilité » qui s'est tenu à Jakarta mercredi le 14 novembre. Le personnel d'experts pour le renforcement du droit et la démocratie du ministère chargé du renforcement juridique et démocratique du ministère du droit et des droits de l'homme, Harut Tamtomo, a déclaré que les gouvernements indonésiens et américains ont collaboré à faire la gouvernance démocratique par l'accord le 29 septembre 2014.
Kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan diketahui oleh Kementerian.
La coopération entre le gouvernement de la République d'Indonésie, représenté par le ministère des Finances, est connue par l'Agence de planification du développement national BAPENAS avec le gouvernement des États-Unis, représenté par l'USAID Indonésie, ont signé un accord d'assistance numéro 497 le 29 septembre 2014. Dans l'accord de coopération, l'un d'entre eux est la coopération pour les piliers de l'ADO ou des objectifs de développement en liés au gouvernement démocratique. Selon Harut Tamtomo, bien que la terminologie entre société civile et organisation communautaire soit souvent utilisée simultanément, en réalité, les deux termes ne sont pas identiques. Car les organisations de la société civile sont définies comme une société civile organisée et peuvent prendre plusieurs formes, telles que des institutions informelles qui ne sont pas des entités juridiques ou l'institution officielle ayant un statut juridique. Actuellement, le nombre d'organisations communautaires en Indonésie s'élevait à 390 293 organisations. En un jour, environ 50 à 100 nouvelles organisations communautaires ont été créées et enregistrées. Un certain nombre d'organisations communautaires ont contribué au développement de la nation depuis la période coloniale à la présente, telles que Budi Utomo, Syarikat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama et les femmes catholiques de la République d'Indonésie. Le gouvernement timorais estime que les possibilités de coopération entre l'Indonésie et le Timor-Leste en tant que pays voisin sont encore largement ouvertes. Le secrétaire d'État chargé de la communication sociale au Timor-Oriental, Mauricio Juvenal dos Reis, a déclaré qu'en tant que pays voisin, il avait l'obligation de coopérer. C'est ce qu'a déclaré Mauricio Juvenal dos Reis lors de sa visite à l'agence de presse Antara à Jakarta mercredi. Selon Mauricio, l'Indonésie et le Timor-Leste ont une vision de la construction des intérêts régionaux et des intérêts des deux pays. Timor-Leste espère que l'Indonésie continuera à soutenir afin que ce pays puisse devenir membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'Institut agricole de Bogor, IPB, a renforcé la recherche dans le domaine des affaires maritimes, en particulier le Grand Fonds, en coopérant avec l'Université nationale Sun Yat-sen de Taïwan pour coopérer dans le domaine de l'éducation. C'est ce qu'a affirmé le recteur de l'IPB, Arif Satria, à Bogor, mardi soir. Il a déclaré que l'Université nationale Sun Yat-sen a des avantages dans l'équipement de laboratoire, notamment l'équipement marin. Cependant, l'IPB manque encore d'équipement de recherche moderne pour les grands fonds. L'Université nationale Sun Yat-sen de Taïwan est incluse dans 50 meilleures universités du monde en 2019. Cette université, fondée en 1980, dispose d'excellentes installations d'enseignement et de recherche. Arif a déclaré ce qui a été développé par l'Université nationale Sun Yat-sen est en ligne avec la vision et la mission de l'IPB envers l'Université 4.0. Pour cette raison, l'IPB a établi un partenariat stratégique avec l'Université nationale Sun Yat-sen à Taïwan en signant un protocole d'accord fait directement par le recteur de l'IPB, Arif Satria, et le recteur de l'Université nationale Sun Yat-sen, Ying Youcheng, PhD, au bâtiment du rectorat de l'Université Sun Yat-sen, mardi le 13 novembre 2018. Cerita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Prendre soin et maintenir la tolérance en Indonésie ». Le 16 novembre est célébré comme Journée internationale de la tolérance. L'UNESCO a désigné le 16 novembre comme Journée internationale de la tolérance afin de sensibiliser le public à l'importance des attitudes de tolérance dans le maintien des relations entre les communautés. La Journée internationale de la tolérance a commencé à être commémorée depuis 1996. Qu'en est-il de la tolérance en Indonésie à ce jour? L'Indonésie est connue comme une société plurielle, comptant environ 1300 groupes ethniques avec une culture culturelle et des langues qui sont variées. L'Indonésie compte également six religions officiellement reconnues par l'État, à savoir l'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Bien que diverses ethnies, langues, cultures et religions, les Indonésiens vivent toujours en harmonie parce que l'Indonésie a toujours défendu les valeurs de tolérance. De nombreux exemples montrent à quel point la tolérance interreligieuse en Indonésie est indissociable. Pour ceci et sur la commémoration des fêtes religieuses qui sont reconnues comme des fêtes nationales, bien que le nombre d'adeptes de la religion soit faible. L'Indonésie, en tant que pays respectueux des valeurs de tolérance, a été reconnue par le monde. De nombreux dirigeants du monde se sont rendus en Indonésie et ont loué sa tolérance indonésienne. Comme Barack Obama, le 44e président des États-Unis, Barack Obama, lors de son discours devant le 4e forum de la diaspora à Jakarta en juillet 2017, a apprécié la tolérance indonésienne. Le conseiller principal du chef spirituel iranien, Mohsen Araki, lors d'une visite au bureau du vice-président Yusuf Kala en décembre 2016, a félicité l'Indonésie qui est capable de montrer la tolérance parmi les communautés religieuses. Mohsen a déclaré « L'Indonésie est l'un des pays qui est un exemple de vie côte à côte, de paix et de fraternité. » Bien que l'on sache que l'Indonésie respecte la tolérance, son pays n'est pas totalement exempt d'un tolérant. Au cours des dernières années, quelques groupes communautaires ont fait preuve d'intolérance. La faiblesse de l'application de la loi est considérée comme un élément déclencheur de l'émergence d'attitudes intolérantes de plusieurs groupes communautaires. En outre, l'intolérance est provoquée par des facteurs économiques et politiques. Toutes les composantes de la nation indonésienne ont la responsabilité de prendre en soin, de maintenir et de promouvoir une attitude de tolérance avant que l'avenir de l'Indonésie soit protégé du conflit de fanatisme entre groupes. Par conséquent, il faut exister les efforts des différentes parties, tant le gouvernement que les organisations de masse, de soigner davantage et toujours inculquer les valeurs nationales, soigner et défendre une culture de tolérance et de diversité en Indonésie, afin que l'Indonésie continue d'être pacifique et n'est pas empêtrée dans un conflit entre les groupes à l'avenir. C'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 15 novembre 1946, l'accord de Linggarjati. L'accord de Linggarjati était une négociation entre l'Indonésie et les Pays-Bas à Linggarjati, Java de l'Ouest, qui avait abouti un accord concernant le statut de l'indépendance de l'Indonésie. Les résultats de cet accord ont été signés au Palais Merdeka Jakarta le 15 novembre 1946 et légalement signés par les deux pays le 25 mars 1947. Lors de cet accord, l'Indonésie était représentée par Sultan Syahrir, les Pays-Bas étaient représentés par une équipe appelée la Commission Générale et dirigée par Wim Smerakhon, dont le membre est Van Mook et Lord Killer de l'Angleterre en tant que médiateur. Les résultats de cet accord ont abouti à 17 articles, parmi lesquels figurent notamment les Pays-Bas ont reconnu de facto le territoire de la République d'Indonésie, à savoir Sumatra et Madura. Les Pays-Bas ont quitté le territoire de la République d'Indonésie au plus tard le 1er janvier 1949. Les Pays-Bas et l'Indonésie sont convenus de constituer un pays de la République des États-Unis d'Indonésie, un Indonésien République Indonésienne Serikat ou RIS, et l'Indonésie doit être intégrée au Commonwealth Indonésien Néerlandais dirigé par les Pays-Bas. Le 15 novembre 1950, la naissance du joueur de badminton indonésien II Sumirat. Il était membre de Magnificent Seven de badminton indonésien en 1970 avec Rudy Hartono, Lim Swee King, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata et Adi Chandra. II Sumirat a remporté la médaille d'or aux Jeux Asiatiques en 1966 et en 1970. Il a aussi remporté le champion du monde en 1976 à Bangkok, en Thaïlande. Le 15 novembre est la journée mondiale de la maladie pulmonaire. Le 15 novembre est célébré comme journée mondiale de la maladie pulmonaire chronique, ou souvent abrégée en MPOC. La MPOC est un terme utilisé pour désigner un certain nombre de maladies qui attaquent les poumons à long terme. Cette maladie bloque le flux d'air de l'intérieur des poumons, de sorte que le patient aura des difficultés à respirer. À l'origine, la Journée mondiale de la MPOC était l'événement annuel de l'initiative de Gold ou initiative mondiale pour la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui a lieu tous les mercredis à la deuxième ou à la troisième semaine de novembre. Depuis 2002, la Journée mondiale de la MPOC est célébrée chaque année le 15 novembre. Lors de la Journée mondiale de la MPOC, des centaines d'activités de sensibilisation auront lieu dans des pays du monde. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Soasang expert de Whitby shares des solutions à la tour. Soasang expert de Whitby, y compris l'Indonésie, ont rencontré pour trouver les étapes techniques ou les solutions qui doivent être faites dans l'étude et la gestion des écosystèmes de tour tropicaux à Batam dans les îles de Riau, lundi. Le président de la Société internationale des tourbières, ou IPS, M. Gérard Smilewski, souhaite que la réunion puisse renforcer la collaboration d'experts afin que les tourbières puissent offrir des avantages pour le bien-être de la communauté. Ils doivent discuter, apporter la solution, cela veut dire un soutien aux personnes qui vivent autour des tourbières. L'essence d'informations sur la gestion durable des tourbières tropicales lors de la réunion devrait également contribuer à la réduction des émissions de carbone ou au contrôle du changement climatique mondial. Gérald Simelewski a déclaré que la Société internationale des tourbières apprécie la création du Centre international des tourbières tropicales. Cette discussion a été également participée par, entre autres, sept pays de la discussion, à savoir l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l'Australie. Nasir Fouad, le chef de l'Agence de restauration de la Tour, ou BRG, a déclaré que l'Indonésie, en tant que plus grand pays de tour tropicale, possède une expérience dans la restauration et la gestion de la tour, ainsi que les résultats de la recherche sur les écosystèmes de tours tropicaux qui peut être un capital pour la coopération avec d'autres pays. Il a déclaré que l'Indonésie se félicitait de l'initiative de coopération internationale pour l'apprentissage des écosystèmes de tours tropicales. Le responsable de la recherche et du développement en innovation du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Agus Lustianto, a déclaré que la création de ITPC était nécessaire pour soutenir les activités avec les dernières connaissances et la nouvelle innovation résultant de la recherche et du développement. Il a déclaré que la gestion des tourbières en Indonésie a été reconnue par les pays du monde entier comme une grande réussite. L'Indonésie est également très heureuse de pouvoir devenir le centre de connaissances dans la gestion des forêts et des tourbières qui ont du succès. La deuxième table ronde sur les tourbières tropicales est également soutenue par les partenaires, à savoir la Société internationale des tourbières, ou IPS, la Société japonaise des tourbières, ou UPS, l'Institut de recherche sur l'humanité et la nature, et aussi l'Association indonésienne de la tour. Outre la science de discussion, les participants de la réunion ont visité trois villages qui deviennent les zones de travail de la restauration de l'Agence de restauration de la tour, à savoir le village de Lukun, le village de Setohor et le village de Tanjung Sari dans le district de Tebing Tinggi Timur, la région des îles de Meranti dans la province de Riau. Au cours de la visite sur terrain, les participants ont vu et discuté des recherches et des activités de mentorat de la communauté villageoise qui ont soutenu l'approche de réhumidification, revégétalisation, revitalisation dans la restauration de la tour. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi souligne le concept Indo-Pacifique à la séance plénière du sommet de l'ASEAN. La ministre des Affaires étrangères a déclaré que le concept Indo-Pacifique avait été convenu par l'ASEAN. L'Indonésie soutient pleinement la paix en Corée. L'Indonésie et les États-Unis collaborent pour faire une gouvernance démocratique. Le Timor-Leste estime que les possibilités de coopération sont encore ouvertes. Et enfin, IPB coopère avec Taïwan pour renforcer la recherche en mer profonde.
Depuis Jakarta, RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. RRI World Service, La Voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, Informing, Connecting, Dignifying.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé Sentono Gentong. La régence de Pacitan à Java de l'Est est également une ville appelée la ville de Mille Grottes. Cette régence possède beaucoup de belles plages. Au sud, cette régence est directement adjacente à l'océan Indien. En plus de la frontière avec l'océan Indien, la plus grande partie de la région de Pacitan se présente sous la forme de montagnes calcaires qui font partie de la chaîne de montagnes Kidul. Par conséquent, le secteur du tourisme se développe également dans les zones de collines qui couvrent environ 85% de sa superficie. L'une des attractions dans les collines de Pacitan est Sentono Gentong. Dans cette attraction touristique, vous pourrez profiter de la beauté de la baie de Pacitan. Sentono Gentong est situé dans le village de Dadapan, le district de Pringkuku. La distance du centre-ville de Pacitan n'est pas très éloignée, elle n'est qu'environ 13 km. La durée du trajet est d'environ une demi-heure, car il faut traverser les zones de collines. Ce site touristique est accessible en transport à 2 roues ou à 4 roues. Pour vous rendre à Sentono Gentong, vous devez acheter un billet au poste de rétribution. Le billet d'entrée est assez abordable, à savoir 10 000 rupiah par personne. Le nom de Sentono Gentong a été pris parce qu'il y a des pierres creuses et dans le passé il y avait un tonneau. Mais maintenant le tonneau est amené au palais de Yogyakarta Hadiningrat car il appartient au sultanat. Et dans le passé, cette région faisait partie du sultanat de Yogyakarta. À Sentono Gentong, vous pourrez voir la baie de Pacitan, le sable blanc de place de Telengria et la place de Pancerdor qui rassemblait à une croissance de lune. La ville de Pacitan est également belle de haut, sa beauté combinée avec les collines qui l'entouraient. Dans la nuit, la beauté du panorama de Sentono Gentong devient de plus en plus belle. Les lumières scintillantes de la ville de Pacitan rassemblées aux étoiles. En plus de profiter de la beauté du panorama de Pacitan de haut en haut, dans cette attraction touristique, vous pouvez également essayer de parapente. Sentono Gentong est souvent le lieu d'événements de parapente. Si vous avez soif ou bien faim, plusieurs stands proposent des produits tels que du riz frit et du thé glacé. À la fin de la semaine, le stand ouvre jusqu'au soir pour ceux d'entre vous qui veulent passer leur nuit de dimanche à Saint-Honoré-Genton. Chers amis, c'était Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur Garuda et la compagnie aérienne la plus ponctuelle en région Asie-Pacifique. Chers auditeurs, la fière nouvelle vient du monde de l'aviation indonésienne. Garuda Indonesia, la compagnie aérienne nationale indonésienne, a été désignée comme la compagnie aérienne la plus opportune en région Asie-Pacifique. Le dernier rapport de l'analyse de vol du guide officiel des compagnies aériennes d'octobre 2018 montre que la compagnie aérienne Garuda Indonesia devient la compagnie aérienne en région Asie-Pacifique qui conduit les passagers à destination à temps. Le guide officiel des compagnies aériennes est une agence de notation indépendante OTP, ou en anglais On Time Performance. Garuda Indonesia est en tête de principale compagnie aérienne en région Asie-Pacifique ou compagnie aérienne effectuant 10 000 vols ou plus avec 90,4% des vols à l'heure. Japan Airlines arrive en deuxième position avec 88,6% de vols à l'heure. Dans le rapport mensuel sur les performances ponctuelles, ou OTP, le guide officiel des compagnies aériennes met en évidence les compagnies aériennes et les aéroports grands et petits. OTP, ou en anglais On Time Performance, joue un rôle important dans la détermination de la probabilité que les passagers servent des vols avec une compagnie aérienne. Il peut donc être très utile de savoir quels opérateurs sont les plus aptes à respecter l'horaire. Chaque mois, le guide officiel des compagnies aériennes publie un OTP, ou en anglais On Time Performance, mensuel qui détaille les compagnies aériennes les plus à l'heure du monde. OTP est visible de vols arrivant ou partant à au moins 14 minutes et 59 secondes de l'heure prévue, y compris les vols annulés. Le guide officiel des compagnies aériennes dispose du plus grand réseau de données de transport aérien au monde, comprenant des bases de données d'horaires définitifs de plus de 900 compagnies aériennes et de plus de 4000 aéroports. Avec cette base de données, les informations les plus complètes sur l'état de vol sur les marchés sont traitées par le guide officiel des compagnies aériennes. Le guide officiel des compagnies aériennes gère plus de 57 millions d'enregistrements de renouvellement de statut de vol par an, traitant 1,4 milliard de demandes et continuant à fournir plus de 35 millions de mises à jour dynamiques du statut de vol par jour. chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical pour l'édition jeudi. Bon, serviteurs, vous pouvez écouter nos émissions par les écoutes ou sur l'internet à l'adresse www.voinews.id. Et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiceindonesia. Pour ce soir, nous allons vous présenter une chanteuse indonésienne, Ruth Sahanaya. Voici donc sa première chanson intitulée Tuetu. Bonne écoute. Serviteur, c'était la chanson de Ruth Sahanaya intitulée Tuetu. Elle est née à Bandung, Java West, le 1er septembre 1966. Ruth est l'une des trio divas indonésiennes ensemble avec Krisdayanti et Titi Dwijayanti. Le troisième enfant des quatre enfants de couple Alfares Edward Sahanaya et Mateda David, en sanglant des Moluques et Sangir Talaud, depuis son enfance, elle aime à chanter et à gagner souvent les prix du festival de chant. Elle a commencé sérieusement comme une chanteuse en 1983 quand elle a rejoint le 5 concours de chant. Elle a gagné le premier prix et deuxième prix pour trois autres concours. Ruth, qui a le surnom Ute, a déménagé à Jakarta pour développer sa carrière. À Jakarta, la carrière d'Ute commence à briller. Après avoir remporté de nombreux prix dans divers concours nationaux et internationaux, dont Lang et Live Music Concert à Kuala Lumpur en Malaisie, Ute a sorti son premier album intitulé Blanche comme l'amour, qui a été publié en 1987 sous la maison de disques Aquarius Musikindo, et cet album a explosé directement dans le marché. Le nom Ute est de plus en plus populaire quand elle a chanté une belle chanson intitulée « Tu et tu ». Bon, chers amis, on écoute la chanson suivante de Ruth Sahanaya intitulée « Se tromper ». Bonne écoute.
Telah
Chers auditeurs, c'était la chanson de Ruth Sahanaya intitulée « Se tromper ». Ruth Sahanaya a sorti l'album intitulé « Seputih Kasih » en 1987, « Tak Terduga » en 1989, « Yang Terbaik » en 1994, « Ute » en 1996, « Kasih » en 1999, « Yang Kurindukan » en 2001. Et puis la meilleure hits en 2002 avec une chanson supplémentaire intitulée « Mengertilah Kasih ». En 2008, Uti a publié encore un mini-album ensemble avec Toa Diva intitulé « Lotta Love Giving My Best » en 2009 et « Thankful » en 2010. Bon, chers amis, avant de terminer notre programme musical ce soir, on écoute sa chanson intitulée « Amenez-moi et si vous revenez ». Bonne écoute et à bientôt.
Jika
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.